Lecture par tous.
C'est un dialogue.
L'émission qui vous parle des livres.
C'est une gymnastique intellectuelle extrêmement bénéfique pour le cerveau.
Des métiers du livre, des lecteurs.
Les jeunes n'ont pas perdu le goût de la lecture.
Et de leur lecture. Et Lecture par tous est toujours là pour l'année 2019. Et on vous souhaite une année 2019 plein de belles lectures, bien entendu. Alors aujourd'hui, une émission de rentrée qui va être de reprise plutôt, qui va être un petit peu acrobatique, parce que mes invités m'ont lâché tout d'un coup, me voilà tout seul. Alors ça n'empêche pas, on va quand même vous parler, je vais quand même vous parler de littérature mexicaine aujourd'hui. Et plus particulièrement, vous entendrez, vous rencontrerez un auteur mexicain qui était à Montpellier il y a peu de temps, Martin Solares. Et puis après, on aura notre petit agenda. La littérature mexicaine. Bah oui, le Mexique, on en parle beaucoup ces temps-ci, hein, à cause d'un certain mur, vous savez, un mur que quelqu'un est très intéressé, voudrait bien fabriquer, et puis il y en a qui veulent pas. Bon, bref, vous en avez entendu parler, c'est l'immigration, c'est la violence, le Mexique, beaucoup de violence. Hein. On en parlera, enfin, Martin Solares nous en parlera tout à l'heure. Mais c'est aussi un pays littéraire, bah oui, hein, même dans les pays où il y a de la violence, on écrit des livres, on fait de la littérature, voire de la grande littérature. Alors, quand on parle littérature mexicaine, juste quelques repères comme ça pour ceux qui seraient curieux parmi vous. Je ne doute pas qu'il y a plein d'auditeurs curieux qui sont des lecteurs curieux. On se dit, tiens, littérature mexicaine, bon, qui je connais, je vois pas, qui y a. Bah, alors, allez, les grands noms, Octavio Paz, par exemple. Octavio Paz, poète et essayiste, hein, qui a un beau recueil de poésie qui s'appelle Liberté sur parole. Magnifique titre. Et puis aussi un livre qui a beaucoup fait au Mexique, un essai qui s'appelle Le labyrinthe de la solitude, qui avait été publié chez Gallimard dans la collection Les Essais. Et puis un autre écrivain très connu, c'est Carlos Fuentes. Hein, Carlos Fuentes, alors on pourrait donner des titres. Alors récemment, alors il est décédé, mais bon, récemment on a eu Federico à son balcon qui a été publié par Gallimard. Mais c'est aussi Le siège de l'aigle, c'est Adam en Éden. Voilà. Beaucoup de romans de Carlos Fuentes, grand écrivain mexicain, une de ces voix qui, les deux, Octavio Paz, Carlos Fuentes, des voix qui ont compté dans la littérature sud-américaine de ces dernières décennies. Mais nos traducteurs ont encore du travail parce que bah, d'autres écrivains arrivent derrière. D'autres écrivains arrivent. Allez, tiens, je vous en donne quelques-uns si vous avez la curiosité. Par exemple, Eduardo Rabassa. Eduardo Rabassa, qui a même été sur une liste publiée des meilleurs, des jeunes auteurs, les plus prometteurs d'Amérique latine. Eduardo Rabassa, dont on trouve en France un jeu à somme nulle. Un jeu à somme nulle, ça a été édité par un petit éditeur qui s'appelle Piranha. Hein, Piranha, vous savez, ces poissons carnivores qui sont dans les rivières d'Amérique du Sud, notamment. Et puis, auteur mexicain avec un titre assez amusant, La vie de couple des poissons rouges. Ça, c'est Guadalupe Nettel qui a publié cela, enfin, qui a été traduite. Hein, c'est chez Buchet-Chastel. Et puis, on pourra encore citer un autre auteur publié chez Belfond, un titre un peu plus sombre, mais qui reflète peut-être cette violence mexicaine. Jordi Soler, dis-leur qu'ils ne sont que cadavres. Hein. Voilà, alors je vous laisse découvrir ça à l'occasion. Hein, voilà, un dernier, allez, encore un. Alors, c'est publié par un petit éditeur qu'on aime bien, un petit éditeur de Marseille, peu connu, Latinoir, hein, qui s'est fait une spécialité de littérature sud-américaine. Et puis, bah, notamment, entre autres, il publie un roman qui s'appelle Iode de Juan Hernández Luna. Voilà, aux éditions Latinoir, hein, un roman un peu inquiétant, un peu noir, un peu fantastique. Voilà. Et puis, ben, je vais vous parler, vous allez rencontrer, je vais vous proposer de rencontrer un auteur que nous avons rencontré à la librairie La Géosphère l'automne dernier, Martin Solares. Alors, Martin Solares, ben, il est publié en France aux éditions Bourgois. Il est né en 1970, hein. C'est un romancier, c'est quelqu'un qui connaît bien la France, qui aime bien la France. Alors, il parle en français, vous allez entendre, avec un sacré accent, mais ça rend le personnage peut-être encore plus attachant. Ben, il a quand même fait un doctorat en littérature à la Sorbonne, donc il maîtrise un petit peu le français. Hein. Alors, romancier et essayiste, critique, qui a fait aussi un travail d'éditeur. Vous pouvez découvrir, par exemple, chez Bourgois, un roman noir qui s'appelle « N'envoyez pas de fleurs », qui est sorti il n'y a pas très très longtemps, dont l'éditeur dit que c'est un récit impitoyable, désabusé et drôle, dans la grande tradition du roman noir. Voilà de quoi vous allécher. Et puis, il aime bien aussi parler du travail d'écriture de la littérature. C'est ce que vous allez l'entendre en parler, avec un livre aussi publié chez Bourgois, qui est sorti plus récemment, « Comment dessiner un roman ?» Eh oui, un roman, ça se dessine. Ça fait peut-être un peu penser, j'avais posé la question, on m'a dit « Oui, c'est tout à fait ça. Vous savez, s'il te plaît, dessine-moi un mouton. » Là, c'est « Dessine-moi un roman. » Alors, Martine Solares, vous allez entendre quelques extraits de cette rencontre que nous avons eue avec lui. Première partie de cette rencontre, comment faire de la littérature.
Je dois avouer que je suis une sorte de passeur qui essaie de ne pas seulement saisir, mais saisir, étudier et laisser libre la littérature. Je suis en train de me poser une question tous les jours. Comment trouver la littérature dans la réalité? Et comment trouver une chose qui soit très littéraire et qui soit capable de rester vivant pendant des décennies, non? Une fois que j'ai disparu, j'aimerais bien que mes livres continuent à être lus. C'est ça que je voudrais poursuivre toute ma vie, non? C'est une sorte de perdurabilité, de légibilité. Parce que je comprends que les romans qui sont très éphémères sont celles qui restent de côté de la réalité, qui posent seulement un miroir à la réalité et qui reflètent un phénomène, une chose historique, etc. et qui n'y ajoutent pas beaucoup à ce que nous avons déjà vécu et à ce que nous avons déjà lu dans les journaux et dans les journaux télévisés. Donc, pour moi, ce que j'essaie de faire, c'est d'arriver à écrire des fictions littéraires. La fiction, c'est une chose très, très délicate pour moi.
Et nous continuons avec Martine Solares. Faire la littérature, c'est bien. L'améliorer, c'est encore mieux. Et ça, c'est un travail d'éditeur.
Et je travaille comme professeur pour des ateliers littéraires. Des personnes qui écrivent littérature, des récits ou des romans, me montrent ce qu'ils sont écrits et j'essaie de les dire s'ils marchent bien et pourquoi, ou s'ils ne marchent pas du tout et comment pourrait-on les améliorer un peu. Et après 22 années de travail comme éditeur littéraire, et j'ai commencé à travailler seulement comme éditeur instantané. Je dois lire et immédiatement donner mon opinion, pas comme un vieil travail où j'ai lisé. Il y avait du temps pour écrire une large lettre à chaque écrivain. Maintenant, je dois être un lecteur qui doit réagir immédiatement. Et qu'est-ce que je cherche dans la prose que je lis de tous mes élèves dans mes ateliers? Bon, la même chose que je cherchais quand j'étais un éditeur. Savoir s'ils ont trouvé une très bonne littérature. Et savoir si ils on fait tout ce qu'ils étaient capables de faire pour faire que cette fiction reste vivante, reste compréhensible et reste attirante. C'est ça que, pour moi, la fiction, c'est un défi.
De la réalité à la fiction, c'est peut-être ça tout l'objet de la littérature.
Et tout le monde peut parler de la réalité, mais je trouve que la plupart d'entre nous trouveront très difficile d'écrire des fictions, s'ils croient que pour écrire la fiction, ils ont le droit d'employer la même prose qu'ils emploient tous les jours pour parler de la réalité. C'est pas du tout la même chose. Et la plupart des gens dans le monde ne comprennent pas ça. Ils croient que pour parler de l'imagination, il faut dire « Oui, hier soir j'ai rêvé, il y avait un rêve très intéressant. » Non, non, non. Dans la fiction, pour arriver à créer des fictions, on doit essayer de trouver une chose très difficile qu'on peut la synthétiser avec une phrase. On doit trouver une nouvelle façon de dire « il était une fois ». J'essaierai de la synthétiser comme ça. Parce que quand on écoute une phrase comme « il était une fois », une chose très magique commence à se passer à l'intérieur de notre esprit. Nous écoutons attentivement. Nous disons une chose très intéressante qui vient d'avant, si? Que c'est très 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 ancien et que c'est bon et que c'est vrai, va se passer ici. Si cette personne sait comment raconter ça. Donc, on écoute attentivement. Et si le raconteur est bon, et s'il a travaillé très dur, il va nous raconter une chose très intéressante, non?
Alors, on dispose de mots, que ce soit en espagnol, en français, de n'importe quelle langue. Mais attention, il y a des mots justes et il y a des mots pas vraiment justes, même carrément faux.
Si on emploie un mot incorrect dans le monde de la fiction, tout va se casser. Je vous donnerai un exemple. Mon ami Francisco Goldman, qui a... Il a obtenu ici le prix Médicis une fois, si je me souviens bien, pour un roman hermos, très, très belle, dédié à son épouse qui est morte, et ça s'appelle Dire son nom. C'est un roman incroyable. Ça a été une sorte de voyage aussi, un roman vers son intérieur afin de trouver tout ce qu'il a pris de son épouse et un voyage pour sortir de cette expérience et le dire à Dieu. Donc c'est un roman immensement belle, très belle, très belle. Et avant, il a écrit un roman d'aventures qui se passait dans la Nicaragua avec José Martí à Nicaragua. Et son premier traducteur à l'espagnol a tout bien fait, mais apparemment l'éditeur a mis une erreur. Il a essayé de corriger. Il a dit non, 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 peut-être que le traducteur s'est trompé. Moi, j'ai amélioré ce que le traducteur a déjà fait. Donc il a commis un très grand erreur. Parce qu'on est en train de parler d'un voyage que José Martí a fait dans le centre, dans la selve, jungle de Nicaragua, en train. Si? Un train poussé par les vapeurs. Train poussé par les vapeurs. Et l'éditeur a mis José Martí est entré dans les. Pardon, comment se dit ce bouquet?
Dans les bateaux,
à vapeur, et les vapeurs à traverser les montagnes, la jungle. Paco était très 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 fâché avec l'éditeur, il a dit, il me a transformé en Gabriel García Márquez.
Il dit, écrire. C'est aussi une question de temps.
C'est quoi le temps verbal que les journalistes dans tout le monde ont l'habitude d'employer tout le temps? Le temps passé, n'est-ce pas? Si? Hier soir, à 15h30, du soir, un sarcophage est arrivé dans le golfe de la France. Si? Il y avait un marine américain qui était là, son nom était Ishmael. Si, elle essayait de nous faire comprendre qu'il a été poursuivi par une baleine blanche. Ça dirait l'article journaliste, exactement. Si, si. Mais Moby Dick ne commence pas comme ça. Il commence avec les temps présents. Call me Ishmael. Appelle-moi Ishmael. Non? Nous ne savons pas si c'est son vrai nom ou si c'est une fausse identité. En effet, j'ai beaucoup discuté avec Juno Díaz, avec Francisco Goldman et d'autres romanciers américains parce qu'ils étaient très 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 contents de Moby Dick, etc. Et avec Rodrigo Fresán, un écrivain d'Argentine, qui disait Moby Dick, c'est le roman le plus américain qu'on peut trouver. Et je lui ai dit, je ne suis pas d'accord. Je peux vous démontrer qu'un des personnages principaux, c'est mexicain. Si. Ah oui, lequel? La baleine? Non, pas la baleine. Pas la baleine. Nous n'avons pas de baleine blanche. Ils sont de l'autre côté du monde, pas de celui-là. Si, nous les savons dans l'Atlantique, pas dans le... dans le Pacifique, pas dans l'Atlantique. Mm. Donc, il a dit, c'est le narrateur. Ismaël, pourquoi? Parce que il jamais nous a montré son passeport. Peut-être qu'il n'y a pas de passeport, c'est qu'il voyage sans passeport.
Si. Sans papier.
Si, exactement. Il a un travail terrible, un chef minable. Et en plus, il doit retourner à son pays. Nageante. Peut-être que c'est un illégal mexicain. Donc, ne me dis pas que Moby Dick c'est la plus américaine des romans, parce que moi, je suis un lecteur mexicain et j'adore ces paroles aussi. Et il n'y a pas besoin d'être américain pour profiter de la lecture de Moby Dick. Et donc, c'est une discussion que nous avons. Parce que Melville a arrivé à comprendre qu'est-ce que c'est la prose de fiction. Dans la prose de fiction, nous n'employons seulement le temps passé. Nous sommes obligés d'employer tout le temps présent d'une façon très discrète, afin de dire, d'une nouvelle façon, dans chaque phrase, il était une fois. Non? Mm-hmm. Si? Le temps était, c'est un temps magique. Non? Quand nous écoutons ce temps présent, nous habituons à profiter d'une chose qui pourrait se passer, peut-être pas, peut-être oui, et nous attendons plusieurs choses dans un roman très bien fait. Ce qui pourrait arriver, ce qui peut arriver, ce que nous aurons voulu qu'il arrive, ce que nous aurons aimé pleinement que soit la vérité.
Ça, c'était la littérature, mais vous avez dit l'auteur est mexicain. Mexique, pays de violence. Violence mexicaine.
Une fois que la violence arrive dans une ville, à Mexico, et il va rester comme un orage horrible pendant des mois, peut-être que pendant des années. Il aura un premier moment horrible où il faut se protéger des fusillades, des tirs, des grenades, de tout ça.
Je viens de Caracas.
Si, exactement. Mais la mécanique de la violence du Mexique, c'est très particulière. Ouais. C'est pas la même chose qu'à Venezuela, c'est pas la même chose qu'à Cuba.
Ni à Colombie, ni en Colombie.
Il a une mécanique particulière. Et une fois que cette sorte de violence menée par les militaires d'un côté, mais surtout par les délinquants, qui sont des capitalistes qui essayent de prendre tout un territoire pour eux, et il a certaines caractéristiques. Je suis en train d'écrire un livre sur ça parce que c'est la même chose. J'ai vu la même chose dans le large de toute la frontière nord de mon pays. Là, c'était une des premières états de mon pays où la violence, malheureusement, a commencé. Pourquoi? Parce que nous avons un très très bel schéma, très grand, très pas étroit du tout, jusqu'à la frontière avec les États-Unis. Mm. C'est un très très bel chemin. Malheureusement, ce ne sont pas seulement les voyageurs qui trouvent très bel ce schéma, sinon les délinquants. Donc, ils essayent d'employer ce schéma jusqu'à la frontière avec les États-Unis pour envoyer de marijuana, de cocaïne, de drogues chimiques aux consommateurs aux États-Unis. C'est du commerce. C'est du commerce. Ce qui se passe là, c'est que de temps en temps, quand un nouveau politicien arrive au pouvoir dans l'État ou dans tout le pays, il laisse de temps en temps qu'un nouveau groupe de délinquants prenne le contrôle d'un État. Et quand Vicente Fox, le premier président de droite, est arrivé, à la fin de son mandat, la violence a commencé au Mexique. Parce que il sait, peut-être, quelqu'un m'a dit, peut-être, il doit savoir, il devait savoir, non? C'était impossible d'être le président d'un pays et ne pas savoir qu'est-ce qui était en train de se passer. Donc, s'il savait, il s'est croisé de bras. Si? Elle a laissé tout faire à ces sortes de délinquants. Donc, c'était les citoyens qui ont souffert. Cette guerre entre deux cartels très puissants qui ont engagé D'abord, les militaires mexicains, d'abord des militaires de la Guatemala, qui s'appellent Caibiles, sont de très obscurs, et des gangs de Sud-Amérique et de Los Angeles, afin de s'entretuer. Donc, les Mexicains, les politiciens mexicains, seulement ils disent, on va attendre que la violence finisse. Mais ils ont beaucoup d'argent, et beaucoup de gens qui sont disposés à mourir pour avoir un peu plus d'argent. Donc, cette guerre peut prendre des mois et des mois. Il y a une ville un peu plus à gauche, presque à la frontière avec l'État de Nuevo León, qui s'appelle, une petite ville qui s'appelle Ciudad Mier. Je parle de ça dans N'envoyez pas de fleurs, parce que pendant 9 mois, il y avait une guerre tous les jours, et personne ne pouvait pas parler de ça, parce qu'il aurait été menacé de mort dans les journaux ou dans les programmes télévisés. Donc, ça a été horrible. La ville avait, on me dit que 600 000 habitants. Finalement, il y a eu moins de 200 000 habitants à la fin de ces 9 mois, parce que la plupart a essayé de, comme le livre a fait, s'enfuir.
Voilà.
Donc, c'est une dynamique. Après, les nouveaux propriétaires de chaque établissement sont des délinquants. J'ai écouté plusieurs fois la même histoire de la part de certains commerçants et entrepreneurs au Mexique qui m'ont raconté comment un tueur est arrivé un jour et il s'est dit, tu vas me signer, voici le notaire qui est aussi menacé, et tu vas me signer que tu me donnes ton commerce, sinon tu vie va finir immédiatement. Et ça s'est fait. Donc, dans la plupart, dans certains cas, j'ai écouté de la voix de certains entrepreneurs qui ont presque tout perdu. Non? Donc, une fois que ça finisse, nous avons un certain calme pendant quelques mois ou des années jusqu'à le nouvel cartel ou le nouvel groupe arrive qui essaye de disputer le contrôle de ce chemin à un nouveau groupe qui a obtenu le pouvoir dans cette ville. Donc, c'est horrible, mais c'est la mécanique de la violence au Mexique. Ah, et ça va se ramifier aussi, parce que les journalistes ne peuvent pas parler de ça, ou ils sont morts, ou ils sont menacés de mort.
Il y a plus de 106 morts pendant les élections, des politiciens locaux, partout.
Si, je ne me souviens pas de la chiffre exacte, mais des dizaines de candidats.
102 pendant la campagne.
Mais ce n'était pas un, deux ou trois. C'est un chiffre de au moins deux numéros qui a été battu pour les délinquants. La dernière fois que j'ai constaté, il y avait 40 candidats de différentes villes qui ont été tués pour les délinquants parce qu'ils ne voulaient pas qu'ils gagnent les élections dans
cette ville. Ce sont les petits dirigeants.
Les journalistes, le Mexique, pour l'instant, a beaucoup plus de morts que l'Afghanistan. Nous sommes en train de compétir avec l'Afghanistan comme le pays le plus violent pour les journalistes. Ça, c'est la honte. Ça, c'est la honte.
Voilà, c'était une rencontre à l'automne dernier avec Martin Solares, un auteur mexicain fort sympathique et des livres tout à fait intéressants, attachants, où son humour est aussi perceptible. Et maintenant, nous allons passer à votre agenda. L'agenda pour les passionnés de livres et de littérature. Alors, nous allons commencer par nous rendre au Gazette Café vendredi 11 janvier, rendez-vous à 18h. Un café artistique proposé par l'association Libre Ancrage autour d'un livre d'une auteure guadeloupéenne, Axelle Mohanda, qui vit à Paris mais qui est guadeloupéenne. Et l'intérêt, c'est aussi un éditeur de Montpellier qui a publié ça, Edistar. Voilà, donc si vous voulez découvrir une auteure guadeloupéenne, vendredi 11 janvier, 18h, au Gazette Café. Ensuite, si vous êtes un peu, pas à Montpellier, on va dire, si vous êtes à Clermont-l'Hérault, jeudi 17 janvier, au théâtre Clermont-l'Hérault, portrait croisé entre deux artistes, un publie des bandes dessinées, l'autre fait du théâtre, il a créé sa compagnie. L'auteur de bandes dessinées s'appelle Fab Caro. Ah, Fab Caro, vous savez bien, Zai 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 Zai, ce livre qui a eu un grand succès, publié par Six Pieds Sous Terre. Et puis la compagnie, le théâtreux, c'est Pascal Rome. Alors ils auront passé 2 jours ensemble, partagé leurs univers artistiques, et puis ils échangeront sur cette rencontre avec le public. Voilà, donc c'est jeudi 17 janvier, 19h, au Théâtre de Sion, à Clermont-l'Hérault. Ensuite, samedi 19 janvier, à la librairie Nemo, Hélène Honora fera des lectures accompagnées de chansons et de comptines pour le plaisir des petits, des tout-petits de 0 à 3 ans, hein, avec un adulte par enfant quand même. Vous n'avez pas laissé ces pauvres petits tout seuls. Alors inscrivez-vous, le nombre de places est limité. Donc librairie Nemo, vous savez, c'est cette librairie spécialisée en littérature jeunesse à Montpellier. Il n'y en a pas beaucoup. 19 janvier à 10h30. Alors, on ne va pas faire venir les petits le soir quand même, hein, des 6 petits bonhommes. Samedi 19 janvier aussi, un événement quand même qu'il ne faut pas rater. C'est la 3e nuit de la lecture. Donc, plein de lieux proposeront des animations. Ben, allez, par exemple, la nuit de la lecture au théâtre Jacques Coeur à Latte, eh ben, ce sera avec les éditions Espace 34, hein, qui vont vous donner rendez-vous à partir de 18h. Et puis, ben, y aura plein de choses. Il y aura aussi une chanteuse, Astrid Fournier-Larocque. Il y aura des musiciens. Voilà, donc... Les éditions Espace 34, qui ne seront pas toutes seules, les éditions Demain aussi devraient participer à cette soirée. À Semières aussi, il va y avoir une chose tout à fait originale sur cette nuit de la lecture, que je retrouve ma fiche. Voilà, je l'ai retrouvée. La petite librairie que nous avions rencontrée dans cette émission, la nuit de la lecture, ils vont aussi faire quelque chose. Pareil. Là, c'est pour les enfants, hein, comme Nemo. Ça va être... La libraire aime beaucoup l'humour, là-bas. Ça va être lecture en pyjama. Ah ouais, lecture en pyjama. Vous pouvez amener votre pyjama et vos chaussons. C'est pour les petits de 6 à 12 ans. Alors, première tranche de 20h à 21h, lecture d'album pour les 6-8 ans. Et puis, les plus grands, les 9-12 ans... Eux, ils peuvent rester un peu plus tard. Ça se passera de 21 à 22 heures. Voilà, il faut s'inscrire à la librairie, la petite librairie à Sommières. Alors, je vous rappelle l'adresse, 7 rue du Général Bruyère. Attention, place limitée. Donc, pensez à vous inscrire si vous êtes à Sommières. Et puis surtout, la libraire précise, venez avec votre plus beau pyjama. Hein, pantoufles et chaussons autorisés. Voilà, pour les actualités, on vous en rappellera quelques-unes. Allez, c'est bon, je ne vais pas vous inonder de trop d'actualités, pas trop charger l'agenda tout de suite. Déjà, nuit de la lecture, il y a certainement d'autres choses que j'ai ratées, qu'on n'a pas vues. Regardez dans vos librairies, allez voir sur leur site, passez les voir, je suis sûr qu'ils vous proposeront des animations originales. En attendant cette nuit de la lecture... Moi, je passe déjà mes nuits à lire. Peut-être vous faites la même chose. Alors, bonne nuit de lecture. Plein de belles nuits, de belles lectures. Et à très bientôt, à la semaine prochaine. C'était Lecture par tous.
C'est un dialogue.
L'émission qui vous parle des livres.
C'est une gymnastique intellectuelle extrêmement bénéfique pour le cerveau.
Des métiers du livre, des lecteurs.
Les jeunes n'ont pas perdu le goût de la lecture.
Et de leur lecture.